Chapitre 9. Un article du Libéral apprit à la ville qu'elle avait une prophétesse. C'était Mademoiselle Claude Denisot, fille d'un agent de placement pour les domestiques agricoles. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mademoiselle Denisot n'avait laissé découvrir à l'observateur le plus attentif aucun trouble dans sa raison ni dans sa santé. C'était une fille blonde, grasse, courte, ni jolie ni laide, mais agréable et d'un caractère enjoué. Elle avait reçu, disait le Libéral, une bonne éducation bourgeoise, et elle était pieuse sans exagération. Comme elle entrait dans sa 18e année, le 3 février 1890 et quelques, à 6 heures du soir, occupée à mettre le couvert sur la table de la salle à manger, elle crut entendre la voix de sa mère qui lui disait « Claudine, va dans ta chambre ». Elle y alla et vit entre le lit et la porte une grande lumière, et elle entendit la voix qui parlait dans cette lumière. « Claudine, disait-elle, il faut que ce pays-ci fasse pénitence. Cela éviterait de grands malheurs. Je suis sainte Radegonde, reine de France. » Mademoiselle Denisot distingua alors dans la clarté un visage lumineux et comme transparent qui portait une couronne d'or et de pierreries. Depuis lors, sainte Radegonde venait converser chaque jour avec Mademoiselle Denisot, à qui elle découvrait des secrets et faisait des prophéties. Elle avait prédit les gelées qui brûlèrent la vigne en fleurs et révélé que M. Rieux, curé de Sainte-Agnès, ne verrait pas les fêtes pascales. Le vénérable M. Rieux mourut en effet le jeudi saint. Elle ne cessait d'annoncer pour la République et pour la France des maux terribles et prochains, des incendies, des inondations, des massacres. Mais Dieu, las de châtier le peuple infidèle, lui donnerait enfin avec un roi la paix et la prospérité. La sainte reconnaissait et guérissait les maladies. Sous son inspiration, Mademoiselle Denisot avait indiqué au cantinier Joblin une pommade qu'il avait soulagée d'une ankylose de genou. Joblin avait pu reprendre son travail. Ces prodiges attirèrent une foule de curieux dans l'appartement habité par la famille Denisot sur la place Saint-Exupère, au-dessus du bureau du tramway. La jeune fille fut observée par des ecclésiastiques, des officiers en retraite et des docteurs en médecine. On crut voir que, lorsqu'elle répétait les paroles de sainte Radegonde, sa voix devenait plus grave, son visage plus sévère et que ses membres se raidissaient. On remarquait aussi qu'elle employait des expressions qui ne sont pas habituelles à une jeune fille et que ses paroles ne s'expliquaient pas d'une façon naturelle. Monsieur le préfet, Vromsklavlin, d'abord indifférent et railleur, suivit bientôt avec inquiétude l'extraordinaire succès de l'inspiré qui annonçait la fin de la République et le retour de la France à la monarchie chrétienne. Monsieur Vromsklavlin était entré dans l'administration lors des scandales de l'Élysée sous le président Grévy. Il avait depuis assisté à ces affaires de corruption sans cesse étouffées et renaissant toujours au grand dommage du Parlement et des pouvoirs publics. Et ce spectacle, qui lui semblait naturel, avait imprimé dans son âme un profond sentiment d'indulgence qu'il répandait sur tous ses administrés. Un sénateur et deux députés de son département se trouvaient sous le coup de poursuites judiciaires. Les personnages les plus influents du parti, ingénieurs et financiers, étaient en prison ou en fuite. Dans ces conjonctures, satisfait de l'attachement des populations au régime républicain, il ne leur demandait pas un zèle ni des respects qui lui paraissaient à lui-même des sentiments antiques et les symboles vains d'un âge évanoui. Les événements avaient élargi son intelligence, naturellement étroite. L'immense ironie des choses avait passé dans son âme et l'avait rendue facile, souriante et légère. Ayant reconnu d'ailleurs que les comités électoraux constituaient la seule autorité réelle qui subsistât encore dans le département, il leur obéissait avec un semblant de zèle et une intime résistance. S'il exécutait leurs ordres, ce n'était pas sans en beaucoup tempérer la rigueur. Enfin, d'opportuniste, il était devenu libéral et progressiste. Volontiers, il laissait dire et faire. mais il était trop sage pour tolérer aucun excès intolérable, et il tenait la main, en honnête fonctionnaire, à ce que le gouvernement ne reçût aucune insulte éclatante, et que les ministres pussent jouir en paix de cette commune indifférence qui, gagnant leurs amis comme leurs ennemis, assurait en même temps leur force et leur repos. Il lui plaisait que les journaux du gouvernement et ceux de l'opposition, compromis les uns et les autres dans les affaires financières, eussent perdu tout crédit pour la louange et l'injure. La feuille socialiste, seule pure, était seule violente, mais elle était très pauvre, et la peur qu'elle inspirait rejetait les esprits vers le gouvernement. Aussi était-ce avec une entière sincérité que M. le préfet, Worms Clavelin, informait le ministre de l'Intérieur que la situation politique était excellente dans le département. Et voici que l'inspiré de la place Saint-Exupère troublait cet heureux état. Elle annonçait, sous la dictée de Saint-Radegonde, la chute du ministère, la dissolution de la Chambre, la démission du président de la République et la fin du régime tombé dans la boue. Elle était beaucoup plus violente que le libéral et beaucoup plus écoutée, car le libéral tirait peu et Mademoiselle de Nizot recevait toute la ville. Le clergé, la grosse propriété, la noblesse, la presse cléricale se penchaient sur elle et buvaient ses paroles. Sainte Radegonde ralliait les adversaires défaits de la République et rassemblait les conservateurs. Rassemblement inoffensif mais important. M. Worms Clavelin craignait surtout qu'un journal de Paris n'ébruitât l'affaire. Elle prendrait alors, se disait-il, les proportions d'un scandale et m'exposerait aux réprimandes du ministre. Il résolut de rechercher le moyen le plus doux de faire taire Mademoiselle de Nizot et se fit renseigner d'abord sur la moralité des parents. Sa famille paternelle n'était pas bien vue dans la ville. Les de Nizot étaient des gens de rien. Le père de Mademoiselle Claude tenait un bureau de placement qui n'était ni plus ni plus mal famé que les autres bureaux de placement. Les maîtres et les domestiques s'en plaignaient et y allaient. En 1871, Denisot avait fait proclamer la commune sur la place Saint-Exupère. Et plus tard, lors de l'expulsion de trois dominicains manu militari, il avait résisté à la gendarmerie et s'était fait arrêter. Depuis lors, il s'était présenté aux élections municipales comme socialiste et n'avait obtenu qu'un très petit nombre de voix. C'était une tête chaude, un esprit faible. On le croyait honnête. La mère était une Nadal. Les Nadal, plus considérés que les Denisot, étaient de petits propriétaires agricoles, tous très bien notés. Une Nadal, tante de Mademoiselle Claude, sujette aux hallucinations, avait été enfermée pendant quelques années dans une maison de santé. Les Nadal étaient dévots et avaient des attaches cléricales. M. Worms Clavelin ne put apprendre davantage. Un matin, il eut une conversation à ce sujet avec le secrétaire général, M. Lacarel, qui appartenait à une famille ancienne de la région et connaissait bien le département. « Mon cher Lacarel, il faut en finir avec cette folle, car il est clair que Mademoiselle Denisot est folle. » Lacarel répondit gravement, non sans une sorte de fierté inhérente à ses longues moustaches blondes. « Monsieur le préfet, les avis sont partagés à cet égard, et beaucoup de personnes croient que Mademoiselle Denisot est parfaitement sensée. Enfin, Lacarel, vous ne pensez pas que Saint-Radegonde vient causer avec elle tous les matins et traîner le chef de l'État avec le gouvernement dans la boue ?» Mais Lacarel avait l'idée qu'on exagérait, que des malveillants exploitaient une manifestation extraordinaire. Il était extraordinaire, en effet, que Mademoiselle Denisot ordonna des remèdes souverains pour des maladies incurables. Elle avait guéri le cantonnier Joblin et un ancien huissier du nom de Favru. Ce n'est pas tout. Elle annonçait des événements qui se produisaient comme elle l'avait dit. Je puis vous certifier un fait, monsieur le préfet. La semaine passée, Mademoiselle Denisot a dit « Il y a un trésor caché dans le champ Feu à Noiselle. On a creusé à l'endroit indiqué et l'on a découvert une grande dalle de pierre qui bouchait l'orifice d'un souterrain. » Mais encore une fois, s'écria le préfet, il n'est pas admissible que Saint-Radegonde... Il s'arrêta, pensif et curieux. Il ignorait profondément la géographie de la Gaule chrétienne et nos antiquités nationales, mais il avait étudié en classe des manuels d'histoire. Il s'efforça de rappeler ses souvenirs adolescents. « Saint-Radegonde, c'est la mère de Saint-Louis ? » Monsieur Lacarelle, qui avait plus de tradition, n'hésita qu'un moment. Non, dit-il, la mère de Saint-Louis, c'est Blanche de Castille. Sainte Radegonde est une reine plus ancienne. Très bien, il est inadmissible qu'elle fasse du potin dans le chef-lieu. Et vous, mon cher Lacarelle, vous devez faire comprendre à son père, je veux dire à ce Denisot, qu'il n'a qu'à donner une bonne fessée à sa fille et à la mettre sous clé. Lacarelle lissa ses moustaches gauloises. « Monsieur le préfet, je vous conseille d'aller voir cette jeune Denisot. Elle est intéressante. Elle vous donnera une séance particulière, tout à fait privée. »« Vous n'y pensez pas, Lacarelle. Moi, aller me faire dire par une gamine que mon gouvernement tombe dans la boue. » Monsieur le préfet Worms Clavelin n'était pas crédule. Il ne considérait les religions qu'au point de vue administratif. Il n'avait hérité aucune croyance de ses parents, étrangers à toutes les superstitions comme à tous les terroirs. Son esprit n'avait tiré d'aucun sol une nourriture antique. Il restait vide, incolore et libre. Par incapacité métaphysique et par instinct d'agir et de posséder, il s'en tenait à la vérité tangible et se croyait de bonne foi positiviste. Ayant naguère bu des bocs dans les cafés de Montmartre avec des chimistes politiciens, il lui en demeurait une estime confiante pour les méthodes scientifiques qu'il préconisait à son tour aux instituteurs francs-maçons dans les loges. Il se plaisait à parer d'un bel aspect de sociologie expérimentale ses intrigues politiques et ses expédients administratifs. Et il appréciait d'autant mieux la science qu'elle lui était plus utile. « Je professe, disait-il sincèrement, cette foi absolue aux faits qui constitue le savant, le sociologue. » Et c'est parce qu'il croyait uniquement aux faits qu'il avait fait profession de positivisme que l'affaire de la voyante commençait à le troubler. M. Lacarelle lui avait dit « Cette jeune personne a guéri un cantonnier et un huissier. Ce sont des faits. Elle a indiqué l'endroit où l'on trouverait un trésor et l'on a vraiment trouvé en cet endroit une trappe à l'orifice d'un souterrain. C'est un fait. Elle a prédit la coulure de la vigne. C'est un fait. » Monsieur le préfet Worms Clavelin avait l'instinct du ridicule et le sentiment de l'absurde, mais ce mode de fait était puissant dans son esprit, et il lui revenait vaguement à la mémoire que des médecins tels que Charcot avaient fait dans les hôpitaux des observations sur des malades doués de facultés extraordinaires. Il se rappelait certains phénomènes singuliers d'hystérie et des cas de double vue. Il se demandait si Mademoiselle Denisot n'était pas une hystérique assez intéressante pour la confier au médecin aliéniste qui en débarrasserait la ville. Il pensait « Je pourrais ordonner d'office le placement de cette fille dans une maison d'aliénés comme de toute personne dont l'état d'aliénation compromet l'ordre public et la sûreté des personnes. Mais les adversaires du régime crieraient comme des putois et j'entends déjà l'avocat Leron m'accuser de séquestration arbitraire. Il faut démêler l'intrigue, si tant est que les cléricaux du chef-lieu en aient noué une. » Car il n'est pas tolérable qu'une demoiselle Denisot se fasse dire tous les jours par Sainte Radegonde que la République tombe dans la boue. Des actes regrettables ont été commis, je le reconnais. Des changements partiels s'imposent, notamment dans la représentation nationale. Mais le régime est encore assez fort, Dieu merci, pour que je le soutienne. »